Cazanov, c'est à vous.
Merci Vincent Dublanc, il est 7h43 à Paris. On passe au sport. Avec Olivier Pron, bonjour Olivier.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
On parle d'abord du prix Marc-Vivien Fouet, RFI France 24. La liste des finalistes a été dévoilée hier.
Oui, dans Radio Foot International, 12 joueurs qui peuvent prétendre cette saison donc au titre de meilleur joueur africain de Ligue 1. Pour succéder à Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais, il y a 3 Sénégalais, Lamine Camara, Habib Diarra et Moussa Diakaté, 3 Ivoiriens, Yaya Fofana, Evan Guessant et Ahmed Junior Traoré, 2 Marocains, Achraf Hakimi et Elias Benseguir, 2 Algériens, Imad Abdelli et Amine Gouiri, un Nigérian, Moses Simon et un Guinéen, Abdoulaye Touré. Alors qui est le favori, me direz-vous? Ma question posée à Hervé Penaud, consultant hors de Radio Foot.
Bien sûr, j'ai un favori. Il y a quand même un homme qui se dégage, c'est Achraf Hakimi. Ce qu'il a réussi à faire avec le Paris Saint-Germain, aussi bien dans son rôle de joueur de football, j'allais dire, et de leader potentiel de cette équipe, c'est assez incroyable. Il atteint un niveau qu'on n'imaginait peut-être pas à une certaine époque. Luis Enrique lui a donné aussi beaucoup de poids. Il a véritablement, je pense, progressé sur tactiquement grâce à Enrique. Et on a aujourd'hui la version XXL d'Achraf Hakimi, c'est-à-dire capable d'être très fort offensivement, ce qu'on le savait, d'être très intelligent en venant se mettre entre les lignes, en venant perturber l'adversaire par ses déplacements et sa vitesse, et puis aussi défensivement, d'être quelqu'un devenu très solide. Donc aujourd'hui, je pense qu'un Achraf Hakimi se dégage largement dans toute cette bande de joueurs qui sont tous, par ailleurs, très bons.
Sacré Hervé Penaud. Les 12 joueurs retenus ne seront plus que 3. Le 5 mai prochain, Marion, le nom du lauréat sera dévoilé une semaine plus tard, le 12.
Les Coupes d'Afrique des clubs à présent, Olivier. Quart de finale aller au programme cette semaine. Ça a commencé hier avec la Ligue des Champions.
Par un carton pour les Égyptiens du Pyramids FC qui ont dominé les Marocains des Phares de Rabat 4-1. Plus de suspense a priori du côté du double tenant du titre, le Al Ahly du Caire. Victorieux 1-0 du Al Hilal Omdurman de Florent Ibengué. Même score pour les Mamelodi Sundowns aux dépens de l'Espérance Tunis. 1-0 aussi. Mais à l'extérieur, cette fois pour d'autres sud-africains, les Orlando Pirates sur le terrain du Mouloudia d'Alger. Ce mercredi, place au quart de finale de la Coupe de la Confédération, cette fois notamment à SEC Mimosa RS Berkane à Abidjan, 16h, temps universel, un adversaire marocain en pleine forme qu'un ASEC ambitieux mais moins impérial ces derniers temps entend bien écarter. Abidjan, Mohamed Lamine Sissavané.
On est content de retrouver le plateau de la compétition africaine.
Content pour ces quarts de finale, mais conscient des qualités de Berkane cette saison. Le coach de la SEC, Julien Chevalier, l'avoue, mais qu'à cela ne tienne, il ne doute pas non plus de son effectif et veut aller encore plus loin.
Si on ne se qualifie pas à ce premier tour, tout s'arrête, mais si on se qualifie, on a la possibilité d'aller gagner le trophée. Donc on se concentre d'abord sur cette première rencontre. Si on pouvait avoir la chance de creuser énormément l'écart et d'être à l'abri avant le match retour, ça serait le scénario idéal, mais il va falloir faire sur le terrain tout ce qu'on peut pour écrire le meilleur scénario possible.
Il y a 2 saisons, la SEC était en demi-finale de la Coupe de la Confédération, puis l'année dernière, en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour le journaliste sportif Yacoub Traoré, ce retour en Coupe de la Confédération devrait aboutir sur un bien meilleur classement.
Quand la SEC Mimosa revient, logiquement le club devrait viser la finale.
Les jaunes et noirs qui ont dû attendre les derniers instants de la phase de poule pour valider leur ticket et qui étaient en difficulté en championnat ont depuis retrouvé une bonne dynamique, d'où leurs ambitions légitimes. Mo Lamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Et puis permettez-moi en quelques secondes de dédier ce journal des sports à un correspondant historique d'RFI parti à la retraite hier. Oui, comme l'an éclou, c'est fini, notre correspondant du service des sports à Lomé, au Togo, pour être précis, on lui souhaite bonne route.
Et merci à lui pour toutes ces années. Merci à vous, Olivier Pron, pour le journal des sports.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
À la une, ce 2 avril, le président américain s'apprête à dégainer de nouveaux droits de douane. Donald Trump promet un jour de la libération et l'impact sur l'économie mondiale pourrait être très très conséquent. L'armée israélienne étend son offensive militaire à Gaza pour, je cite, écraser le Hamas. Le ministre israélien de la Défense appelle aussi les Gazaouis à chasser le groupe islamiste de l'enclave. En Guinée, la junte fixe le référendum sur la constitution au 21 septembre prochain. Le général Mamadi Doumbouya, à la tête de cette junte, avait promis dans ses vœux du nouvel an que 2025 serait une année cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Encore un espoir d'être candidate en 2027. En France, Marine Le Pen pourrait être jugée en appel à l'été 2026, selon la Cour d'appel de Paris. Et puis l'acteur américain Val Kilmer est mort à 65 ans. Il était connu pour ses rôles dans Top Gun et Batman Forever. Ce mercredi est un jour important en Côte d'Ivoire, premier fournisseur mondial de cacao, avec l'annonce du prix du kilo de fèves garantie aux planteurs pour la récolte intermédiaire qui court d'avril à juillet. C'est le sujet de la chronique des matières premières. Marie-Pierre Olfan, la petite campagne, comme on l'appelle, s'ouvre dans un contexte difficile en Afrique de l'Ouest.
Et oui, l'année dernière, la Côte d'Ivoire a vu sa récolte baisser de plus d'un quart et cela a été un vrai coup dur pour le premier fournisseur de fèves au monde. Derrière cette baisse, il y a des raisons structurelles et d'autres liées au climat. Personne ne croit aujourd'hui à une production qui remontera à 2 ou 2,2 millions de tonnes comme pendant les belles années, mais il n'y a pas pour autant de consensus sur les chiffres prévisionnels. L'Organisation internationale du cacao table sur une récolte meilleure que l'année dernière. Du côté du Conseil Café Cacao, l'organe ivoirien de régulation, on est plus pessimiste et on craint de ne pas faire mieux, voire moins, c'est-à-dire moins d'1,7 million de tonnes et moins de 400 000 tonnes pour la petite campagne qui débute.
Et cette nouvelle récolte va-t-elle suffire aux industriels ?
Alors environ la moitié de cette petite récolte a déjà été vendue à l'avance, mais ça veut dire qu'il en reste autant qui n'a pas encore trouvé preneur. Signe que les multinationales ne se précipitent pas et qu'elles sont prêtes à ne pas faire tourner leurs usines de broyage à 100% de leur capacité. Les industriels lèvent donc le pied, peut-être en espérant que les prix baissent, mais aussi parce qu'au bout de la chaîne, les chocolatiers commandent au compte-gouttes.
Et dans ce marché, et cette nouvelle récolte va-t-elle suffire aux industriels ?
Effectivement, en temps normal, quand la production est bonne, 80% environ de la récolte ivoirienne est vendue avec plusieurs mois d'avance à un prix fixe. En ce moment, la grande récolte qui débutera en octobre prochain est donc en train d'être commercialisée, mais tout doucement, juste pour tester le marché sans prendre de risque, assure une source au sein du Conseil Café Cacao. La hantise de la filière est de revivre le scénario de l'année dernière. Selon les chiffres officiels, 80 000 tonnes de cacao avaient été vendues en trop par rapport à la récolte, ce qui veut dire autant de contrats qui n'ont pas pu être honorés en temps et en heure et ont dû être reportés sur la saison suivante.
La chronique des matières premières, Marie-Pierre Olfan. Amadou Ndiko a été détenu pendant 3 mois au secret, en dehors de toute procédure légale au Mali. Il est actuellement président de la jeunesse Poulakou International, ancien président de la section jeunesse de Tabital Poulakou Mali, des associations communautaires Peul de défense des droits humains. Du 16 décembre 2023 au 11 mars 2024, il raconte ses 3 mois de détention, de calvaire, un témoignage inédit, car les personnes libérées ont pour consigne de se taire, et alors que les enlèvements extrajudiciaires se multiplient. Invité d'Afrique Matin, Amadou Ndiko, désormais en exil, hors du Mali, répond aux questions de David Baché.
Amadou Ndiko, bonjour.
Bonjour.
Lorsque la sécurité d'État vous a enlevé, vous vous apprêtiez à lancer une nouvelle association internationale de jeunes de la communauté Peul. Est-ce que c'est pour ça que vous avez été détenu pendant 3 mois ?
Effectivement, j'étais en train d'organiser le premier congrès de la jeunesse Poulakou internationale. J'ai été enlevé à la veille même du congrès. Et dans l'interrogatoire, il a posé la question pourquoi je voulais organiser ce congrès, si c'était pour déstabiliser la transition. Et aussi, comme je faisais beaucoup de dénonciations contre les exactions commises par les forces armées de sécurité contre les civils Peul, il y avait cela aussi. Et il m'accusait aussi directement d'être en complicité avec certains groupes armés terroristes.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, pour commencer, les circonstances de votre enlèvement ?
Après avoir été convoqué le 14 à la direction de l'ANSE.
Le 14 décembre 2023 à la sécurité d'État.
À la sécurité d'État, où ils m'ont intimidé et m'ont demandé de s'asseoir à la conférence de presse. À la veille du congrès, aux environs de 0h, je voulais rentrer chez moi et plusieurs véhicules, 4 m'ont intercepté et m'ont bloqué la route. Ils étaient nombreux, mais en civil. Il est venu vers moi, il m'a fait entrer dans sa voiture et il a démarré. Il a demandé à celui qui était à côté de moi de mettre la cagoule.
Pendant ces 3 mois de détention, quelles étaient vos conditions, votre rythme de vie ?
Ils m'ont gardé dans une chambre annexe d'une maison. J'ai trouvé un matelas, des couvertures. Et il y a un autre dans une autre chambre que je n'ai jamais vu. J'étais très mal nourri. Je ne pouvais pas sortir de ma chambre. Je ne suis jamais sorti à part les 2 fois qu'ils voulaient m'interroger.
Et le reste du temps, on vous laissait dans votre chambre ?
J'étais dans ma chambre seul. Quand ils rentraient, je devais mettre la cagoule. Je ne voyais personne. Je n'ai jamais vu une personne étant là-bas. J'étais seul, séquestré, isolé. Pendant 3 mois, j'avais même le rêve de voir juste le soleil ou le ciel.
D'autres prisonniers de la sécurité d'État, une fois libérés, ont raconté à des proches ou à leurs avocats avoir subi des tortures, coups, décharges électriques, simulations de noyade. Heureusement, cela n'a pas été votre cas.
Heureusement, moi, j'ai pas été torturé, j'ai pas été frappé. Seulement, j'étais affamé et isolé, séquestré et loin de ma famille. C'était psychologique et ça me fatiguait parce que je ne voyais pas un être humain. J'avais juste envie de voir une personne en face de moi.
Comment se sont passées vos séances d'interrogatoire?
Quand ils venaient pour m'amener dans le salon d'interrogatoire, ils étaient trois. Quand ils tapaient à la porte, je devais mettre la cagoule, donc je ne pouvais plus les voir. Ils m'ont sorti de ma cellule, ils m'ont amené dans un petit salon où ils m'ont fait asseoir sur une chaise. Ils sont sortis et ils m'ont laissé avec leur chef qui devait m'interroger.
Et sur quoi est-ce que vous avez été interrogé?
Ils m'ont demandé pourquoi je voulais organiser ce congrès, pourquoi je suis avec Amadou Koufa.
Moi,
je suis
Amadou Koufa, le chef de la Katiba Massina du JNIM lié à Al-Qaïda.
Oui, exactement. Ils m'ont posé la question de savoir pourquoi moi je le représente à Bamako. J'ai été très surpris. J'ai dit comment moi je peux être le représentant de Koufa et être à Bamako. Ça ne corrobore pas.
Donc ils vous accusaient d'être un complice des groupes djihadistes?
Exactement, il m'accusait d'être complice, en même temps être avec les puissances occidentales telles que la France. Et surtout, j'étais en contact avec la Radio France Internationale.
Donc vous avez aussi été interrogé sur vos liens avec des journalistes de RFI?
Bien sûr, ils m'ont demandé si j'étais en contact avec David Baché, exactement. Et heureusement, je n'étais pas en contact avec David Baché. Je
n'avais pas encore.
Ils m'ont demandé pourquoi j'ai dénoncé les exactions commises par Wagner. Moi, j'ai dit je suis malien contre l'impunité, c'est pourquoi j'ai dénoncé.
Amadou Ndiko, au bout de 3 mois, vous avez finalement été relâché par la sécurité d'État. Pourquoi? Comment?
J'ai décidé de ne plus manger parce que j'étais fatigué, je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je n'ai commis aucun crime, j'ai décidé de ne plus manger. Quand ils ont constaté ça, ils sont venus pour me dire que Amadou, si tu ne manges pas, on va te présenter à un juge, tu seras à la maison centrale d'arrêt de Bamako, et là-bas, c'est pas facile. Je dis, je préfère être là-bas parce qu'au moins, je vais prendre un avocat, mes parents sauront où je suis. Donc, ils ont compris que ça va pas m'empêcher de continuer la grève de la faim. Le 11, c'était le premier jour du Ramadan. Ils ont toqué à la porte et ils m'ont demandé de prendre mes affaires. Je n'avais pas des affaires, je n'avais que mon boubou. Ils m'ont sorti et ils m'ont amené jusqu'à vers Bouziba.
Un quartier de Bamako.
Ils disent qu'aujourd'hui, on va te libérer, mais voici les conditions. Les conditions, c'est de collaborer, de ne pas dénoncer, de travailler avec eux.
Ils ont proposé de travailler pour la sécurité d'État.
Je n'ai pas accepté, c'est pourquoi j'ai décidé de partir, parce que je ne pouvais pas rester et ma vie était en danger.
Aujourd'hui, pourquoi tenez-vous à témoigner de ce qui vous est arrivé?
Parce que on voit que les enlèvements continuent de plus belle. Il faut que ça cesse, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça dans un pays de droit. S'ils te reprochent de quelque chose, il y a la justice.
Amadou Ndiko, merci.
Amadou Ndiko, président de la jeunesse Poulakou International, il répondait aux questions de David Baché, interview à retrouver, à réécouter sur notre site RFI.fr ou bien notre application Pure Radio.
RFI Matin.
À Paris, 5h55, en temps universel. Plus de 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, le front reste enlisé avec peu d'avancées de part et d'autre. Enlisé aussi la question d'un éventuel cessez-le-feu dans le pays. Pour l'heure, les 7 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays n'envisagent donc pas un retour en France. Ils sont près de 90 000 exilés et après Paris et Lyon, c'est la petite ville de Saint-Nazaire sur la côte ouest qui accueille le plus d'Ukrainiens en raison des liens entre ce port et l'Ukraine. Saint-Nazaire, un port d'attache pour les réfugiés ukrainiens, c'est un grand reportage de Marie Casadebey. On en écoute un extrait.
Olena, la femme d'Alexandre, est arrivée à Saint-Nazaire en septembre 2022. Elle nous attend chez elle.
Excusez-moi, petit français, Lisa Lila.
Avec ses deux filles, Lisa et Lilia, des jumelles de 9 ans qui n'osent pas sortir de leur chambre, un peu intimidées.
Je peux rentrer?
Oui.
En quelle classe vous êtes?
Moi, je suis en CM2B, Lilia en CM2A.
Ça veut dire que vous êtes dans la même école, mais pas la même classe?
Oui, c'est ça. Ils sont faits comme ça parce que si on est dans la même classe, on parle plus ukrainien que français.
Vous avez des devoirs à faire?
Oui. Je montre l'agenda. On a les dictées, on a le calcul à poser et poésie.
Est-ce que c'est difficile pour vous, l'école?
Ça va bien, mais un peu difficile. Par exemple, il y a des mots qu'on ne comprend pas, des phrases, mais ça passe.
Tu te souviens, quand tu es arrivée, d'être plongée dans un monde où tu ne comprenais pas ce que disaient les gens?
Oui, la première fois que j'étais en France, on ne comprend pas des mots, des phrases, mais on a dit oui, oui, oui. Nos copines nous demandaient, est-ce que vous voulez jouer au loup? On a dit oui, est-ce que vous voulez jouer cache-cache? On a dit oui, toujours oui. Et on ne comprend pas ce qu'il dit.
Mais ça, c'était il y a longtemps maintenant.
Bah, c'est déjà là, presque 4 ans. Oui.
Alors du coup, madame, est-ce que vous comprenez là de quoi on parle avec vos filles? Ou c'est difficile?
Ça
fait mal de ne pas comprendre.
Dans le couloir de l'appartement, les sœurs jumelles s'arrêtent devant un cadre rempli de photos de famille.
Ça, c'est en Ukraine. Là, c'est notre lac, on va dire.
Là, c'est notre jardin.
Donc ça, c'était le jardin en Ukraine.
Oui.
Quelle nostalgie! L'Ukraine nous manque énormément. C'était très dur au début, surtout les deux premiers mois. Le fait de partir, déjà, le manque, on ne peut pas décrire ce qu'on ressent à ce moment-là. Ça va mieux maintenant parce qu'on s'est installé, mais quand même, notre cœur est toujours là-bas.
La première que le manque, c'est la langue. Bah, bien sûr, notre maison... Copine, mamie, papy, tout le monde.
La version intégrale de ce grand reportage est à écouter sur RFI à 19h40 ou 21h40, heure de Paris, également en podcast sur le site de RFI ou bien l'application Pure Radio. Restez avec nous sur RFI dans une minute maintenant, le retour de l'actualité internationale.
RFI à Saint-Louis, 99.7 FM.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Un geste de réconciliation nationale pour les uns, une prime à l'impunité pour les autres. En Guinée, 8 mois après sa condamnation à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité, le capitaine Moussa Dadis Camara a été gracié par le général Doumbouya. On en parle.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Nous sommes à Marseille avec nos invités pour le sommet Climate Change. Comment adapter les villes au changement climatique ? Défis et partage de solutions concrètes entre l'Europe et l'Afrique.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.